Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre Parole aux auditeurs, votre magazine d'échange et de partage. Le Monde a célébré ce 8 mars la journée consacrée à la défense, à la promotion des droits de la femme. En RDC, beaucoup de voix plaident pour une représentativité équitable des femmes dans les instances de prise des décisions à tous les niveaux pour concrétiser le vœu de la Constitution et la loi sur la parité. Que faut-il pour y arriver? Vous pouvez nous joindre au 081-890-4969 pour vos interventions en direct. Vous pouvez également rejoindre d'autres internautes sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Cette émission est réalisée par Priscilla Badjoukou et Patrick Kassonga en assure la mise en onde. Quant à moi, Pierrot et la Mégie, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
De plus en plus de voix s'élèvent pour plaider pour une représentativité équitable des femmes dans les instances de prise des décisions à tous les niveaux, comme le veut la Constitution de la République démocratique du Congo sur la question de la parité en termes de 50-50. Comment arriver à cette représentativité équitable des femmes? Nous en parlons avec vous dans cet échange. Nous avons associé à partir de Kananga au Kasaï central, Madame Nathalie Kambala. Bonjour.
Bonjour Pierrot et la Mégie, et je salue tous les auditeurs de la Radio Capi.
Et vous êtes responsable de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral. Peut-être avant de revenir sur la question centrale de notre émission, parlons un peu de votre expérience en grande ligne de ce que votre ONG a découvert sur la question de la femme au Kasaï central. Mais est-ce que votre travail aussi a-t-il permis quand même à ce qu'aujourd'hui les femmes aient une place dans les instances de prise de décision par rapport à votre expérience personnelle avec votre structure dans l'espace Grand Kasaï?
Merci beaucoup Pierrot et la Mégie. Je pense que c'est une question très très importante et aussi une question de l'heure parce que ici, au pays, et même dans notre province, on a constaté cette injustice sociale de la non-représentativité de femmes à des instances de prise de décision. Notre structure, c'est parmi les structures qui sont d'abord féminines et qui travaillent dans des domaines d'intervention un peu spécifiques qui cadrent avec les questions du genre. Ça veut dire nous sommes dans la participation, dans la protection de la femme, la défense des droits de femmes et aussi l'autonomisation de la femme et aussi lutter farouchement contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Pierrot et la Mégie, ta question était de savoir si effectivement nous avons joué notre rôle pour pousser peut-être les femmes à se représenter à des instances de prise de décision. Je voulais vous rassurer ici que nous avons fait d'abord un petit sondage rapide. Ce sondage rapide, c'était pour étudier cette problématique de faible intégration de genre dans les différents postes de décision. D'abord, un problème pour comprendre même la question du genre à tous les niveaux et comment l'intégrer pour faire développer notre société. Alors, après notre sondage, nous avons pris des différentes institutions, différents bureaux, différents domaines pour voir est-ce qu'ils ont d'ailleurs un programme pour l'intégration du genre dans leur activités. Nous avons voulu aussi savoir s'il y avait une stratégie quelconque au sein de leur structure pour atteindre la parité. Nous avons étudié sur les approches du genre qui devaient aussi s'impliquer dans la planification, la mise en œuvre, même les reporting et le suivi évaluation dans le cadre du genre, dans différents bureaux que nous étions au parquet, nous étions au barreau, nous étions à la police militaire, nous étions dans les institutions publiques, privées, nous étions dans des partis politiques. Nous voulons aussi savoir s'il existait dans des structures politiques ou des des structures politiques ou bien administratives, des politiques pour lutter contre les exploitations et abus sexuels et surtout les harcèlements sexuels, et aussi s'il y avait déjà des personnels dans les différentes structures qu'on avait vraiment sondées, et savoir s'il y avait un programme de développement qui cadre avec l'implication du genre dans leurs différents. Mais Pierrot, je suis un peu déçu parce que de toutes ces questions, nous avons visité 28 structures. Et sur la première question, par exemple, de savoir s'il y avait une stratégie quelconque au sein de la structure pour atteindre la parité, sur le 28 structures, il n'y a que 7 structures qui nous ont dit oui. Mm-hmm. Et quand nous voulions savoir le oui, là, c'était à quel niveau, il y avait des petits soucis. Et c'est comme ça, et dans le cas du pourcentage, donc sur les 6 questionnaires, sur le 28 structures, on a compris qu'il y avait seulement 17% des personnes qui comprenaient un peu l'apport du genre dans la mise en œuvre des différentes activités dans différents domaines et aussi la participation active des femmes. Parce qu'à un certain moment, les gens même nous condamnaient que plus les structures des femmes sont là, plus on revendique, plus les postes ministériels, soit les postes de députation, soit le gouverneur et consorts, on oublie les autres actions, les autres domaines qui aujourd'hui nous rattrapent comme à l'Est. On avait semblé ne pas s'intéresser, par exemple, à l'armée, à la police. Voilà, aujourd'hui, il y a un gouvernement à l'Est sans femmes parce qu'il n'y a pas de femmes dans le domaine opérationnel dans le cadre de l'armée. Voilà un peu, et notre travail que nous avons, nous sommes une structure d'abord de prévention. Nous sommes là dans la mobilisation, dans les lobbies, dans le plaidoyer, dans la sensibilisation aussi, la vulgarisation. Nous sommes un pays qui a vraiment des bons tests, mais on comprend que parfois, les gens ne comprennent pas le test, les gens ne comprennent pas même ce que les lois disent de notre pays, les gens ne sont pas au courant de leurs droits, et les gens ne savent même pas que si nos droits sont violés, qu'est-ce qu'il faut le faire. Donc c'est le travail que nous étions en train de faire, et je dois te rassurer que, au moins, les gens au Kasaï Central, qui m'écoutent présentement, sont reconnaissants, et ils savent que la FNDI a un travail de titan sur terrain, et lorsque nous sentons qu'il y a une injustice dans le cadre soit de nomination, soit d'élever une femme à des postes de prise de décision, et là nous haussons les dents et revendiquons la place, et je sais qu'il y a toujours des solutions qui arrivent, quelle que soit la durée de jour.
Alors, avant d'écouter les auditeurs, est-ce que la question de la représentativité de la femme dans les postes de prise de décision, ça doit être réglé comme un cadeau? Parce que quand je lis les commentaires des uns et des autres sur la page Facebook, il y en a qui disent non, la femme doit se battre. Quand on dit la femme doit se battre, ça veut dire quoi exactement? Elle doit revendiquer ou l'homme doit avoir un nouveau regard sur le rôle que la femme doit jouer?
Oui, justement, parfois je me pose aussi la même question. Quand les hommes disent qu'on doit se battre, c'est avec qui? Et les hommes même qui occupent ces postes de prise de décision, ils se battent aussi avec qui? Pierrot et la main, j'étais en train de réfléchir un peu pour dire qu'il y a des postes de nomination qui sont très techniques. Par exemple, les différentes divisions qui existent. Ces postes-là exigent un avancement progressif en grade et en fonction. Il ne faudra pas ramasser quelqu'un comme ça, vous le prenez, vous le mettez, directeur ou secrétaire général, chef de division. Et moi, à un certain moment, pour être objectif, on devrait commencer à passer par le test pour arriver à ce poste. Mais vous comprendrez qu'avec la politique que nous avons, c'est tous ces postes-là, on les donne parce qu'il y a des connaissances. Moi, je dis, s'il y avait des postes qu'on devait passer par le concours, aujourd'hui, les femmes, on ne devait pas commencer à revendiquer ce droit où on nous dit on doit se battre. On se bat lorsqu'il y a des tests. On se bat lorsqu'il y a des élections. On sait que quand je me bats ici, c'est pour eux qu'on puisse me voter et que je puisse avoir aussi un poste. Je vais me battre s'il y a un concours. Je vais montrer mes capacités intellectuelles pour réussir aussi et réussir aussi et puis mériter ce poste-là. Mais lorsque ce sont des postes nominatifs, on nous demande de nous battre. Et pendant que ces postes nominatifs sont donnés par ces mêmes hommes-là. Voilà un peu l'injustice que les hommes ont. Et lorsqu'on nous dit de se battre, c'est pas parce qu'eux pensent que nous, nous continuons à être faibles. Nous, on ne mérite pas de participer aussi, d'être à des postes de prise de décision. Parce que s'il y a le test sur le même français, nous avons étudié avec différents hommes, dans le même auditoire. Parfois, on était plus intelligents que les hommes. Mais ces hommes-là, aujourd'hui, occupent des grands postes de prise de décision. Je me pose la question, qu'est-ce qu'il a fait de plus, puisque moi, à l'auditoire, j'étais aussi plus meilleur que ce monsieur. Alors, voilà un peu ce contraste-là, cette contradiction qu'on est en train de vouloir inculquer dans les têtes des gens. Par contre, les hommes devaient continuer à croire, parce que l'histoire, on nous dit toujours, le jour où on avait voté la Constitution, avec ses articles 10, 11, 12, 13, 14, qui parlent plus de la parité, combien de pourcentage de femmes étaient dans cette assemblée-là, nationale, au détriment des hommes? C'était 11% de femmes. Mais la plupart d'hommes avaient donné leur voix pour qu'il y ait une loi sur la parité. Mmh. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Les mêmes hommes qui ont voté la loi n'arrivent pas à céder ces postes-là à ces femmes. Il y a beaucoup de postes au-delà des élus, au-delà des parlementaires, des députés. Le reste de postes ici dans l'administration publique, dans l'armée, dans la police, la magistrature, l'avocature, c'est vrai, c'est une profession libérale. Tout ça, pourquoi on ne peut pas aussi croire à la femme telle qu'on le fait chez les hommes? Pourquoi voilà. Nous demandons-nous des efforts? Le plus des efforts là, c'est ce qu'on demande aux femmes même de se méconduire. C'est demander aux femmes de chercher aussi de l'argent, de corrompre. Parce qu'on sait déjà que le visage de la femme a un visage de pauvreté. La femme ne peut pas avoir l'argent. Et je comprends alors que les hommes passent outre la méritocratie, ils cherchent d'autres mécanismes pour accéder au pouvoir. Parce que si c'était normal, toujours de par l'intelligence des femmes, la méritocratie des femmes, les capacités intellectuelles, tout ce qu'on peut posséder pour rendre service à nos sociétés, je pense qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas demander à ces femmes que ce n'est pas un cadeau, on ne peut pas vous donner sur le plateau, il faut vous battre. Oui, je ne refuse pas. Chez les femmes, il y a aussi cette négligence-là. Les femmes, parfois, n'ont pas d'ambition. Les femmes, parfois, pensent que pour arriver là où les autres sont, je dois avoir quelqu'un qui doit me pousser. Les femmes aussi, ce sont des femmes de mille bras, qui ont tellement de choses à faire, ils pensent qu'autre chose appartient seulement aux hommes. Mmh. Donc, il y a de notre côté, il y a aussi des causes qui font assez que...
Alors, nous allons revenir sur les différentes causes, les pesanteurs qui font aujourd'hui, qui pèsent sur la femme, parce que vous êtes sur terrain, on pourra en évoquer. Le temps d'écouter, on vous garde en ligne, Madame Nathalie, à nos compatriotes comme Maître Edmond qui nous appelle d'Embandaka, Edmond Bokolo, et Alain qui est à Kananga. Merci de nous avoir rejoints dans Parole aux auditeurs. Edmond, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour la radio Capi, mes salutations à l'invité, ainsi que bonne fête des droits de la femme à toutes les femmes congolaises.
On vous écoute, Maître Edmond. Alors, cette question de l'équitabilité, n'est-ce pas, en termes de représentativité de femmes dans les instances des prises, des décisions, comment on doit procéder pour y arriver?
Bon, merci. Merci beaucoup. Je pense que j'ai suivi même notre invité lorsqu'il parlait. Elle parlait. Je pense que la question de l'équitabilité, la question de la parité, c'est une question bien sûr réglée par les textes. Nous avons la Constitution, l'article 14, nous avons également la loi de 2015 sur la parité qui prévoit cette équitabilité. Moi je pense que toujours que les femmes doivent savoir que dans toutes les fonctions politiques, pouvoir public, ils ne nécessitent pas vraiment obligatoirement par exemple une nomination de la part de l'autorité. C'est-à-dire que l'équitabilité implique d'abord la force, l'auto-prise de conscience de la femme congolaise. Parce que aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on dit que nous avons 500 députés, on doit avoir 250 députés femmes, 250 députés hommes. Voilà, c'est ça l'équitabilité que les femmes souhaitent avoir. Et je pense que pour arriver à 250 députés femmes, il faut se poser la question comment on devient député. Pour devenir député, il faut passer aux élections. Pour passer aux élections, vous devez passer à la propagande. C'est-à-dire que la femme congolaise doit se battre dans la société pour s'imposer. Parce que apparemment, même l'équitabilité, même la parité est mal conçue. Parce que les femmes pensent que lorsqu'on dit la parité, c'est-à-dire que ça doit se faire d'une manière automatique. À chaque fois qu'il faut partager le pouvoir, même là où il faut mériter, on doit nécessairement insérer la femme sans que la femme soit ou ne puisse mériter. Je pense que la femme elle-même doit s'imposer. Je pense que j'ai suivi madame. Lorsqu'elle parle sur la sensibilisation, le plaidoyer, c'est ce qui doit être fait. Je pense que depuis l'avènement de la Constitution de 2006 jusqu'à aujourd'hui, il y a quand même des avancées significatives en matière de droits de la femme et notamment sur la parité. Mais aujourd'hui, si cette question apparemment n'avance plus, cette question ou cette responsabilité doit être imputée à la femme congolaise elle-même. Je pense que la dame qui vient de parler, et un autre invité, parle aujourd'hui parce que aujourd'hui elle est considérée comme une élite féminine. Et l'élite, c'est cette minorité qui se démarque dans la société. Nous avons ce genre de femmes partout. Mais d'une manière générale, moi je me pose la question, la parité c'est juste pour la femme élite, l'élite féminine, c'est ce qui se démarque, ou c'est pour toutes les femmes et toutes les filles congolaises? Et pour répondre à cette question, je pense que cette responsabilité devrait être incombée à la femme congolaise aujourd'hui. Parce que la femme aujourd'hui pense que la parité, il faut nommer. Donc vous êtes à la maison, on vous ramasse, on vous donne. Non, il faut remplir les critères. Pour remplir les critères, vous devez vous battre. La parité signifie faire ce que l'homme peut faire. Voilà la parité. La parité ne dit pas qu'il faut partager, faciliter la femme. Il faut une certaine facilitation. Il faut s'exposer parce qu'on est une femme et pour qu'on puisse bénéficier de l'équitabilité.
Alors, mais quand vous regardez, Maître Edmond, on regarde le regard. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a cette question. Pour être élu, il faut passer par un parti politique. Il faudra-t-il avoir l'argent? Faudra-t-il concourir sur le terrain? Est-ce que les femmes aujourd'hui, même au sein des partis politiques, ont-elles aujourd'hui les mêmes chances en termes de postes de responsabilité? Et pour que, d'abord, qu'elles reçoivent aussi les moyens comme les hommes ont ces moyens financiers et qu'elles soient capables de se mouvoir sur le terrain aujourd'hui pour battre campagne d'une manière que l'homme le fait au sein d'un parti politique.
C'est ça le problème. Je pense que pour répondre à votre préoccupation, je voudrais vous dire que c'est ce qui fait que la femme congolaise n'est pas motivée. Parce que lorsque vous essayez un peu de passer en revue les différents partis politiques, vous trouvez que la participation féminine, elle est minoritaire. Et cette minorité ne vient pas de nous, les hommes, vous et moi, ne vient pas de nous, nous de pouvoir public. C'est la volonté des femmes. Donc les femmes, la femme elle-même ne veut pas s'impliquer pour qu'elle puisse intégrer les partis politiques. Parce que dans les partis politiques, nous avons des femmes qui sont des secrétaires générales, qui sont les directrices au niveau de la province et consorts. Et les femmes qui s'adonnent, les femmes qui sont conscientes d'elles-mêmes, ce sont ces femmes qui se retrouvent. Donc aujourd'hui, si on fait une petite étude, vous allez voir que c'est plus de 10%, 20% des femmes elles-mêmes qui se prennent en charge pour intégrer les partis politiques.
Merci beaucoup. Alors, Maître Edmond, vous estimez, Maître Edmond, oui, que la question de l'équitabilité en termes de postes et responsabilités, il faut arriver aussi à impliquer la femme en termes de volonté personnelle. Alors, merci de nous avoir appelé de Mbandaka. On va écouter Alain qui est à Kananga, au Kasaï Central. Alain, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs. Alain, vous êtes avec nous, bonjour.
Allô?
Oui, Alain, vous êtes avec nous, bonjour.
Allô, Mboujimaï.
Ah, voilà, c'est plutôt Kalo qui est en Mboujimaï. Kalo, merci d'être avec nous. Et bonjour, Kalo.
Oui, bonjour, M. Kiro.
Alors, bonjour, on vous écoute par rapport invité à cette question, oui, madame.
Et vous savez que pour ne pas revenir à ce que Maître Edmond vient de parler, je vous pose la question et je pose à l'opinion de lui qui nous écoute en ce moment. Qui sont les femmes qui sont présidentes des partis politiques actuellement au pays? Si elles sont là, à combien de pourcentages? Parce que pour accéder à des postes de responsabilité et de décision, c'est la politique qui compte ici chez nous. Moi, je me dis, même si la dame aujourd'hui dit, aujourd'hui, on doit se battre avec qui tout ça? Elle se pose des questions multiples, mais je suis d'accord avec elle. Mais je pose la question. Pour accéder à des postes de nomination, pour passer par la politique, c'est-à-dire on voit que, voilà, dans tel parti politique, il y a autant de députés, autant, et puis on des partages. Mais je me dis aujourd'hui, là, la femme elle-même veut toujours que nous, moi qui vous parle, que je sois son chef. Elle est derrière moi. Elle n'a pas aussi la conscience que non, je dois aussi travailler comme l'homme doit travailler. Mais je me dis, ça va arriver comment? Mais c'est un processus. Moi, je ne vois pas quelque chose qui va apparaître d'un coup comme ça. Non, c'est un processus. D'abord, les dames qui sont déjà éveillées doivent aussi mener des sensibilisations, les chefs de leurs camarades, pour les motiver. J'ai une question que vous devez poser à votre invité. Aujourd'hui, là, est-ce qu'elle peut me dire réellement qu'ici au Congo, dans un parti politique, quelle femme peut accepter aujourd'hui d'être candidate à la présidence de la République avec son parti? parce que tout le monde est toujours derrière. Je suis de l'IDPS, je suis de MLC, je suis de
Mais MLC, rappelons quand même, depuis 2006, si vous vous rappelez bien, Kalo, il y a eu des femmes candidates à la présidence de la République depuis 2006.
Indépendantes.
Avec leur parti politique. Avec leur propre parti politique.
Avec quelle chance?
Avec leur. Non, non, mais Kalo, la question de chance. La question des chances pour être élu, ça vient après. Parce que vous avez posé la question, s'il y a-t-il des femmes capables qui se sont déjà pointées? Des femmes ont été candidates présidentes de la République avec leur propre parti politique. Rappelons bien cela dans l'histoire de notre pays.
Avec quelle chance de remporter la présidentielle? Parce qu'il faut être facile. Pour avoir maintenant ce poids-là de postuler comme président de la République et remporter. Je vois que c'est la femme elle-même qui a un problème. Mmh. Parce que si la femme est en conscience, moi je trouve que ça va aller, mais.
Alors, mais rappelons-nous quand même, Kalo, rappelons quand même qu'il y a eu des femmes candidates présidentes de la République. Mais c'est pas automatique. Quand on postule, on doit être élu. Même les hommes qui ont été aussi candidats présidents, tous n'ont pas été élus. Il y a toujours une seule personne qui sera élue. Mais vous estimez qu'il faut d'abord qu'on ait des femmes qui sont responsables des partis politiques. Mais ça, c'est la question qui touche au mandat électoral. Notre invité évoquait par exemple ici la question de nomination dans les postes de responsabilité. Ça ne touche pas à la question d'être élu, par exemple. Alors, on revient à vous, madame Nathalie Kambala-Loussé. Vous avez suivi nos deux compatriotes en attendant qu'on ait aussi d'autres intervenants tout à l'heure. Il y a ce problème où on estime que la femme responsable. Alors, est-ce que le fait que les hommes, dans la majorité, même quand vous lisez sur notre page Facebook, qui parlent de la responsabilité de la femme, est-ce qu'on peut dire que le regard n'a pas aussi beaucoup changé au niveau de notre société sur cette question de la responsabilité qu'on estime que la femme doit avoir pour se battre?
Merci beaucoup, Pierrot. Ce que j'étais en train de dire, quand même, qu'il y a eu des avancées significatives aujourd'hui, de voir, puisque dans le temps, les femmes n'allaient pas à l'université, mais aujourd'hui, on en a beaucoup. Allez dans les collations de grade, vous verrez qu'il y a plein de femmes qui terminent, même à des options où c'était réservé seulement aux hommes. Allez-y à la polytechnique, allez-y dans des options chimie et consorts. Il n'y avait plus en mathématiques, il n'y avait plus de femmes. Mais aujourd'hui, au moins, ces femmes-là terminent. Allez autant de femmes-là qui ont porté des toges. Ces femmes-là sont avec nous, qui sont chômeurs, qui n'ont pas d'emploi, qui étaient peut-être plus intelligentes que les hommes. Mais je demande à mes deux auditeurs qui viennent de poser des questions, est-ce qu'ils croient en leurs femmes? Est-ce que dans leur famille, ils ont des femmes? Est-ce que leurs fils, leurs femmes, leurs sœurs, leurs mères ont aussi étudié? Est-ce qu'ils ne sont pas plus intelligents que les autres hommes de leur école, de leur quartier, de leurs universités? Mais pourquoi aujourd'hui avoir toujours... Moi, je sens que c'est un conflit interne des hommes qui pensent qu'il y a de l'orgueil, qu'il y a un sexe qui est toujours plus fort que les autres, et on veut nous démontrer que nous devons faire encore des efforts. Je voulais encore dire à notre frère qui analysait, voilà, les femmes doivent savoir que c'est pas un cadeau, l'autoprise en charge dans l'équitabilité, il faut comprendre elles sont combien. Oh, parce qu'elles sont minimum dans la députation. Apparemment, les gens pensent que avoir le pouvoir, c'est être à l'Assemblée provinciale. Non, mon frère, nous devons vraiment veiller à notre système de nomination. Il y a des nominations, il y a aussi les votes. Et voilà, quand les gens s'enorgueillent, quand ils restent dans leur système, ils pensent que la femme, pour accéder, il faut faire des efforts. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on pense que la femme n'a pas évolué. Écoutez les femmes à Kinshasa. Regardez les débats. Regardez des réflexions. Regardez les idées des femmes. Est-ce pour autant qu'il y a que... Il y a une ou deux femmes qui devaient être suprêmes? Est-ce qu'il y a que autant? Puisque nous avons la présidence. Évidemment, le président est là. À un certain moment, j'ai participé dernièrement à la journée table de ronde avec les femmes. J'ai aimé la proposition de l'honorable Moukonkole aujourd'hui, qui a dit à un certain moment le combat que nous faisons, nous allons revendiquer la vice-présidence de notre pays où une femme doit aussi être là, pour qu'on sente qu'on doit quand même gérer ce pays ici. Pierrot, nous avons étudié. Les femmes ont étudié. Il y a des femmes professeurs d'université, mais qui ne sont même pas ministres nationaux. Et même les gens qui sont en train de parler avec vous ont été enseignés par les femmes. Vous avez besoin de combien de femmes pour que vous sachiez que les femmes méritent aussi être à des instances de prise de décision? Moi, je pense que c'est un problème. Si dans notre pays, les pouvoirs, les postes de prise de décision continuent à être donnés sur le plan des fanatismes, corruption, connaissance, frères et sœurs, copinage, Je pense que la même question, nous allons débattre autant de fois et nous ne trouverons pas des solutions. Évidemment, moi je suis tout à fait d'accord qu'il y a des causes vraiment liées à la femme elle-même. Parce qu'à un certain moment, lorsqu'on n'est pas, on n'a pas confiance à soi-même, puisqu'on est intelligent, donc vous voyez même dans les auditoires, une fille intelligente, mais croit à ce que le garçon lui dit. Pour elle, ce qu'elle dit là, c'est pas bon. Elle se dit, si je me mets devant les gens, est-ce que je vais parler? Si on m'écoute à la radio, est-ce que mes analyses vont convaincre les gens? Parce qu'il y a quelqu'un qui ne t'a même pas suivi, mais qui veut fermer la radio parce qu'il a suivi une voix d'une femme. Tu vois un peu ce contraste-là. Il y a aussi la rivalité entre nous, les femmes. Parce que une femme, déjà, quand on te dit, c'est elle qui sera ton chef, toi, elle est même intelligente plus que toi, mais toi tu dis parce qu'elle est femme, elle ne peut pas me diriger. Il y a peut-être le manque de solidarité féminine, parce que nous sommes quand même, vous reconnaissez que nous avons 72% de la population qui est, le statistique, c'est les femmes qui occupent 72% de nos populations ici. Mais si on était aussi logique de nous-mêmes, on devait quand même avoir beaucoup de députés. Au lieu d'avoir 12% dans cette législature, 20% au Sénat, 27% au gouvernement, mais c'est ce manque-là de solidarité, encore du pain sur la planche. La peur aussi de s'engager. Les femmes, parfois, ont peur de s'engager parce qu'il y a une jalousie auprès des hommes. Parce qu'il y a l'immoralité peut-être dans le fonctionnement, dans le travail que les femmes ont. C'est comme ça que les hommes ont peur de lâcher leurs femmes. Je sais qu'il y a des hommes qui sont intelligents, qui ont des femmes qui ont étudié, mais ils ne peuvent pas les livrer pour aller servir le pays. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres qui ont des yeux ouverts, qui sont là, qui ont des femmes à la maison.
Il y a la question, madame, il y a la question de la moralisation de notre société d'une manière globale, qui joue aussi un rôle important dans ce sentiment négatif dans ce freinage de la femme. Alors, nous allons écouter une autre...
Et puis aussi, quand on parlait de la femme, est-ce que la femme est à la présence? Je te rassure, depuis 2006, il y a eu quand même une candidate, Mama Zouzou Mbombo, à moins que notre frère était jeune, il n'était pas encore né. Parce qu'il y a eu quand même, dernièrement, il y avait une certaine Monique, il y a eu quand même des femmes. Vous voulez quelle femme? C'est une personne qu'on va nommer président. Mais vous voulez qu'il y ait 10 femmes. Par contre, ces 10 femmes là-bas, moi je pense que c'est un problème d'hommes. Si on change vraiment la mentalité des hommes, les hommes comprennent le rôle que les femmes jouent dans la société, je pense qu'on va régler facilement ces choses. Mais si on voulait croire à nos coutumes, être égoïste, être orgueilleux, penser que c'est mon sexe qui est plus fort que les autres, je pense qu'on aura toujours des difficultés, Pierrot. Moi j'exhorte les hommes du Congo, faites confiance à vos femmes. Aujourd'hui, les pays qui sont développés, la plupart des femmes sont lettrées. Ils ont cru à la femme. Mais comment nous ici, il y a des femmes, même ici au Kasaï Central, nous avons des femmes professeurs d'université, les chefs des travaux, n'en parlons même pas. On ne dit pas que le pouvoir c'est seulement ministre, et parfois ils ne sont même pas payés, mon cher ami.
Mais voilà, ça dit qu'il y a des postes de responsabilité.
Vous devez nommer, par exemple, la nomination des autorités académiques. Ici au Kasaï, il n'y a pas aucune femme directeur de l'institution supérieure, non recteur, à part prof Bitota, qui est dans une institution publique.
Alors, on a vu, j'ai assisté à ça.
N'avait pas de femmes, il faut être dans un parti politique pour être directeur d'une institution supérieure universitaire. Vous voyez un peu là où l'injustice.
Alors, c'est là où il y a aussi cette implication de l'effet politique, parce que notre ami, tout à l'heure, Kalo, disait que la politique, joue un rôle important dans cela. C'est ça, on a beaucoup décrié qu'il y a un pourcentage très faible des femmes nommées, comme autorités académiques, alors qu'il y a beaucoup de femmes professeurs dans ces universités, mais on sait que ces postes sont souvent partagés en tenant compte, bien sûr, des acquaintances politiques, ce qui est aussi inutile à pouvoir combattre. Alors, on va écouter ici à Kinshasa, Maria Curtis. Merci de nous avoir rejoints dans ces débats. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Pierrot.
Alors, on vous écoute. Vous avez suivi notre invité. Cette question, faudra-t-il laisser la femme se battre? Elle se bat contre qui? Que toutes les autres présenteurs qui font aujourd'hui, que ça joue un rôle négatif dans le fait de voir la femme s'épanouir dans le poste des responsabilités. Quel est votre point de vue?
Elle n'a pas totalement tort, dans le sens que la femme est appelée à se battre contre le système qu'elle a trouvé, un système préétabli. Par le système, je vois la culture, je vois notre société, plus particulièrement congolaise, africaine certes, mais plus particulièrement congolaise. Nous avons trouvé certaines barrières qui faisaient que, moi je me souviens à l'époque, arrivant à l'université, ça faisait un peu bizarre de trouver presque 50% de femmes dans l'auditoire en premier graduat. On se disait, dans cette faculté, presque, nous n'étions pas à 5 ans, nous étions en dessous, mais ça faisait presque la moitié, et c'était quelque chose d'étonnant. Pourquoi? Parce que il y avait certaines facultés qui étaient réservées aux hommes, il y avait certaines fonctions, c'était connu d'avance et c'était comme ça, c'est pour les hommes, il y a certains postes, certains, alors la femme, elle est appelée à se battre, pas avec des coups, mais en faisant preuve de ses compétences. Vous voyez, monsieur Pierrot? La femme, plusieurs attendent d'être emmenées à certains postes. Mais moi, je préfère plutôt utiliser le verbe arriver. Qu'elles n'attendent pas qu'on puisse l'y emmener, mais qu'elles puissent y arriver en démontrant ses merveilleuses capacités, en démontrant ses grandes compétences. La femme, c'est un être très compétent, un être très fort. Et je crois fermement que si seulement toutes les femmes arrivaient à être conscientes des capacités qu'elles ont, elles sont dotées de beaucoup de capacités. Elles sont à mesure de gérer plusieurs choses en un seul instant. Donc moi, je crois que si chacune de nous devenait consciente qu'elle est capable d'y arriver, lorsqu'elle se tient pour parler, elle est sûre qu'elle dira des bonnes choses et des choses qui seront écoutées et comprises. D'autre part, il y a aussi un côté qu'a évoqué la dame qui est passée juste avant moi, cette sorte de rivalité. Plus d'une fois, je me suis retrouvée dans une institution dirigée par une femme, et c'est la dame qui essayait de bloquer tout ce qui était féminin. Elle préférait travailler avec les hommes. Cela, c'est pas parce que nous n'étions pas compétentes, mais simplement parce qu'elle voulait travailler avec, elle préférait travailler avec les hommes qu'avec les femmes. Donc, il y a ce côté-là où les femmes doivent être conscientes de leur force, de leurs compétences, de leur position, où elles doivent travailler pour être aussi compétentes que ça. Mais il y a aussi l'autre côté où nous devons nous soutenir. Nous devons accepter que là où nous travaillons, nous puissions tendre la main aux autres femmes qui sont encore en bas. Voilà.
Alors, Maria Curtis, je pourrais ajouter par exemple, mais vous avez dit qu'il faut cette question de la prise de conscience. Où la femme doit-elle apprendre la prise de conscience? En famille, à l'école, église, confession religieuse? Où faudrait-il trouver des structures ou les cadres là où la femme est appelée, est stimulée et est motivée pour qu'elle prenne conscience de ses capacités?
Au stade où nous nous trouvons, normalement, si nous revenons dans les normes, ça devrait commencer à la maison, en famille, avant d'aller être approfondi à l'école et rajouter le peu qu'on peut avoir dans les confessions religieuses. Mais au stade où nous nous trouvons, déjà plusieurs de nos mères ne sont plus conscientes, au fait, ne sont pas conscientes de ce poste, de cette histoire-là, de cette prise de conscience-là. D'où, il y a une phrase qui dit, on ne donne que ce qu'on a. Oui. La mère, elle n'est pas consciente, elle va transférer ça à ses enfants. C'est pourquoi je me dis qu'au stade où nous sommes, nous devons monter plusieurs entités, je sais pas, des organisations qui doivent conscientiser les femmes dans les avenues, dans les quartiers, dans les villes. Parce que nos maisons ont été déficitaires.
Merci beaucoup, Maria Curtis, de nous avoir appelé de Kinshasa. Je rappelle encore à d'autres dames qui voudraient bien intervenir dans Parole aux auditeurs, que c'est au 081-890-4969, 081-890-4969. Et tout à l'heure, nous allons revenir à notre invitée, Madame Nathalie Kambala-Loussé, responsable de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral. Vous êtes nombreux à vouloir intervenir, mais n'oubliez pas que le débat se tient également sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Nous revenons à vous. Maria disait tout à l'heure qu'il y a la question de la conscientisation de la femme. Ça dit qu'il faut commencer par la famille. Si le regard n'a pas beaucoup changé au niveau de nos familles, ça va être difficile déjà que cette fille qui évolue au milieu des garçons, si les parents n'ont pas eu la possibilité de lui dire, de lui montrer ses capacités d'aller plus loin, ça va continuer à peser ainsi, que ce soit à l'école, ailleurs. Et c'est ça le rôle exactement que vous jouez avec des structures qui se battent pour les droits de la femme, Madame Nathalie.
Oui, merci beaucoup. Je sais que le premier milieu ou lieu d'éducation, c'est la famille. Si déjà au niveau de la famille prenait conscience que le garçon et la fille, tous, ils ont les mêmes potentialités, les mêmes chances de travailler, d'étudier et devenir importants dans la société, je pense qu'on n'aura pas beaucoup de difficultés. Au-delà de la famille, je pense qu'il y a les écoles, les universités,
et il y a les églises et autres structures peut-être d'encadrement, des structures de femmes et tout et tout. Mais je sais qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de causes qui entourent la femme aujourd'hui, qui ne sait pas facilement accéder à des instances de prise de décision. Parce que je vous parlais de ce manque de confiance, des rivalités entre les femmes, manque de solidarité féminine, la peur aussi de la femme de s'engager avec tout ce rouage-là au milieu de la profession. Il y a aussi manque d'ambition ou d'initiative. Il y a des femmes intelligentes, une femme qui a fait des grandes études, mais vous sentez en elle, elle veut peut-être soit s'occuper de la maison, soit s'occuper seulement de la profession où elle est qualifiée. Au-delà de ça, vous sentez qu'elle a des potentialités, mais elle ne sait pas s'ouvrir ou elle a peur de s'engager, mais elle a tous ses acquis, toutes ses possibilités, cette intelligence-là d'aller aussi faire de grandes choses. Je pense que c'est un grand travail à faire. Il y a aussi manque de possibilités. Là, on ne doit pas se voiler la face. Il y a des choses qui demandent aussi beaucoup, beaucoup de moyens pour accéder à ce poste, surtout des postes électifs et au-delà de cela, incompétence. Parce que si vous regardez bien aussi, les hommes parfois nous mettent en conflit avec les femmes. Parce qu'on a besoin de femmes, il faut ramasser n'importe quelle femme. Vous la mettez à un poste de prise de décision. Et là, lorsqu'il y a des petites erreurs, c'est sur toute la page, sur tout le Facebook, c'est le monde entier qui a vu qu'une femme a mal prononcé le mot en français, qui n'est même pas notre langue maternelle. Donc une femme a mal. Donc c'est un peu ça. Les erreurs des hommes passent inaperçues, mais les erreurs des femmes, c'est ainsi qu'on n'a pas droit aux erreurs. Là, je le dis tout le jour auprès de femmes. Puisque nous, il y a 1000 yeux qui est vers nous, comme on a de 1000 bras, mais pour les hommes, ça peut passer même, il dit, la papa 1000 fois. Parfois, on change même une constitution parce qu'un homme a commis une erreur en prononçant une phrase. Mais chez nous, c'est de moquerie, en longueur de journée, jusqu'à toucher même à la personnalité d'une personne. Il y a aussi des causes, par exemple, exogènes, sur le plan politique, économique, sur le plan socioculturel. Les femmes sont aussi basées à beaucoup de problèmes. C'est par exemple, il y a manque de volonté politique pour mettre en application l'objectif de la loi sur la parité, Pierrot. Comment on peut nommer, on peut voter une loi sur la parité, mais il y a pas une stratégie claire pour la mise en place. Donc, les gens peuvent nommer une femme sur 100 hommes, c'est normal, mais que cette loi-là, elle fait quoi? Elle fait quoi pour nous? Il y a par exemple la faible capacité des femmes qui sont dans les sphères de prise de décision. Il y a toujours des dictats, des mots d'ordre, idéologie de parti politique. Une femme intelligente qui a toutes ses potentialités, c'est comme ça que tu verras, les femmes ont peur tellement de faire le mal, hein. Tellement elles ont peur de faire le mal, tu vous sentez que elle a mal, soit elle abandonne, soit elle commet cette erreur et tout retombe sur elle. Vous voyez un peu, il y a l'immoralité aussi dans les sphères, hein, tous les domaines, on sait que il y a des choses et puis des décisions, et tous ces postes sont enviés par les hommes. Donc, une femme est là, je vous dis, il y a toujours des coups bas, des coups bas, des coups bas. Si nous allons, par exemple, sur le plan économique, ces causes. Les femmes, aujourd'hui, on ne sait pas les approcher, je ne sais pas au niveau national, s'il y a vraiment une technique pour intégrer dans la planification de développement l'approche genre. Je ne sais pas s'il y en a. Aujourd'hui, il y a faible implication de la femme dans la planification de développement. Aujourd'hui, il y a le développement. J'interpelle le président de la République, peut-être qu'il peut m'écouter d'une manière ou d'une autre. Dans le développement de 145 territoires, est-ce que la femme a une place de choix? Est-ce que le comité qui est mis en place, on va aussi avoir le regardant? Parce que malheureusement, ici, au Conseil central, par exemple, tous les territoires sont gérés par les hommes. Tous les bourgmestres sont des hommes. Le chef de quartier sur les 27 quartiers qui existent au Conseil central, on a peut-être une ou deux femmes. Et vous venez avec un développement territorial. Je suis en train de me poser la question, quel sera le rôle de la femme dans cette histoire-là? Au-delà de cela, l'agriculture aujourd'hui est dominée par les femmes, mais reste rentable et informelle. Même les femmes qui font l'agriculture, les font peut-être pour les hommes, elles n'ont pas de champs, elles n'ont pas de concessions. Quand elles les font, le pourcentage va auprès des hommes. Soit la gestion même des produits venus de cette agriculture, c'est l'homme qui gère. Voyez un peu comment nous sommes, le point même de besoin de la maison, des besoins primaires, allumettes, sucre, Même l'homme ne laisse rien, mais ce qu'il va trouver, le feu doit s'allumer. On doit puiser de l'eau. Et quand la femme ne puise pas l'eau, on revient avec des injures sur elle. Ce sont des petits problèmes aujourd'hui qui touchent un peu la femme. Elle n'est pas trop financée. Mais sur le plan socio-culturel, il y a l'insuffisance des services liés à la santé. Aujourd'hui, les femmes vous mettent au monde, ils pensent peut-être que c'est une richesse. Mais peut-être ça ne lui permet pas d'avoir le temps aussi d'aller faire autre chose. Elle pense qu'elle est mieux à la maison avec ses enfants pour les sécuriser, les encadrer, les éduquer et les protéger.
Alors madame, oui, madame Nathalie, comme vous l'avez dit, hein, on a dit que le travail il est transversal, hein, il doit aller un peu plus loin. Alors, est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui de pouvoir impliquer le système éducatif dans cette question de changement de regard sur ce qui doit se faire?
Bien sûr, c'est ainsi que nous on réclamait même la notion du genre, déjà de par l'école primaire. Si on peut insérer ça, la notion de violence sexuelle et celle basée sur le genre, ça fait partie de freins qui ne poussent pas la fille même à aller loin avec ses études, à réfléchir. Il y a des choses que nous embrassons après les études, les barrières qui nous arrivent après les études, mais départ, celle déjà. De par l'école primaire, secondaire, il y a ces petites notions qu'on pouvait déjà inculquer aux garçons qui seront des futurs ministres et députés, aux filles qui seront des futures présidentes de la République. Je pense qu'aujourd'hui, on n'aura pas des difficultés. Moi, je pense que sur le plan aussi éducatif, on doit revoir le système éducatif. Même alors, même, on doit aussi légaliser le système de quotas. Parce que si on voit que les quotas, on devait mettre aussi des postes où les femmes elles-mêmes devaient se battre pour éviter ces injustices ici. Il y a la persistance des stéréotypes socioculturels, il y a des préjugés. La femme ne peut pas parler, c'est comme chez nous ici. La femme ne peut pas parler. Une femme qui est devant les hommes, vous voyez, les hommes commencent à se retirer. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui avait dit que la femme ne peut pas parler. C'est la femme qui font la politique sans des filles, des mères légères. Il faut pas aller. Elles appartiennent à toutes. Donc il y a des préjugés que les gens mettent en tête. C'est ainsi, moi, je sensibilise toujours les femmes politiques. Donnez-nous vos témoignages. Parlez, est-ce que c'est que la communauté, les petits peuples disent? Est-ce que c'est ce que vous rencontrez aussi comme difficulté? Pour qu'on ait un peu des arguments. Il y a aussi le problème peut-être lié à la persistance de violences sexuelles et celles basées sur le genre. Les injustices là, discrimination déjà à la maison. Un garçon, une femme, vous n'avez pas beaucoup d'argent, on préfère privilégier les études de l'homme, de garçon, au détriment des études de la femme. Lorsque vous terminez les universités, pour aller à l'université, et si vous vous présentez l'examen d'État, il faut que la réunion de famille élargie entre pour décider si notre fille doit aller à l'université ou pas. Il y a aussi, par exemple, les violences, les harcèlements sexuels en milieu professionnel. Parfois aussi, ça fait aussi, ça ne pousse pas les femmes à aller loin. Il y a par exemple aussi les professeurs, le point sexuellement transmissible, l'université, les filles qui sont intelligentes, mais par leur beauté, make-up, cabello et tout, elles pensent qu'il y a un autre chemin pour accéder à ces grands postes. Or que l'amitié existe, mais au-delà de cela, c'est ce que j'apprécie, la dame sait qu'elle venait de dire, il y a cette méritocratie. Moi, je pense que le combat que les hommes devaient nous demander, c'est combattre toutes ces inégalités, toutes ces causes exogènes, endogènes, combattre toutes ces barrières, toutes ces discriminations, toutes ces violences, mais pas nous demander de nous battre pour accéder à ça, non.
Merci.
Nous nous battons pour que vous puissiez comprendre que la femme aussi doit avoir une place de choix dans la société.
Voilà.
L'égalité plus déjà à l'image, à son image.
Okay. Alors madame Nathalie, nous allons revenir à vous. Vous gardez la ligne parce qu'il y a encore deux dames qui se sont ajoutées avec vous à Kananga. Nous avons madame Nicolette Ngalula qui est en ligne et puis madame Ginette qui nous appelle de Colosi. Merci de nous avoir rejoints dans cet échange. Madame Nicolette, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, merci messieurs les journalistes.
Alors nous parlons de la question de l'équitabilité, comment arriver à avoir des femmes dans les postes de prise des décisions, de responsabilité. Pour vous, quelle devrait être la démarche aujourd'hui pour y arriver?
Merci beaucoup pour la question. Aujourd'hui, quand je venais d'attendre madame Nathalie en train de parler, il y a plusieurs hommes qui pensent que la femme n'est pas capable ou la femme doit être toujours une femme de ménage. Soit pour que la femme puisse avoir des responsabilités, il faut qu'elle passe par le point sexuel ou il y a autre point qu'il doit suivre. Mais non, aujourd'hui, il y a les femmes qui sont capables. Tout en étant capable, elle a étudié. Imaginez que vous allez trouver une femme qui a fait 5 ans à l'université, qui a par exemple fait les droits ou qui a fait par exemple la médecine. Pour arriver à atteindre ces niveaux-là ou le titre, elle a fourni beaucoup d'efforts. C'est pas toutes les filles, parce que on va dire que parce que elle a eu à avoir quoi les hommes sur le même banc d'égalité, elle a été couchée par les assistants, par le professeur, ainsi de suite. C'est comme ça qu'elle est devenue licenciée, par exemple. Mais non, la femme est très intelligente, devrais-je dire. Elle est très intelligente, très capable de travailler. Parce que vous voyez qu'elle est en jupe, c'est pas l'habit qui doit faire à ce que la femme soit incapable. Donc, on doit commencer par faire étudier la femme. Elle est capable aussi d'étudier. En étudiant, elle doit avoir des capacités à ce que, aujourd'hui qu'elle devienne gouverneur de province, aujourd'hui qu'elle devienne le premier ministre, voire même qu'elle dirige la République démocratique du Congo. Nous avons des exemples palpables. Vous avez aujourd'hui, je donne l'exemple qui est sur le point d'égalité, Madame Nathalie qui fait y affaire, hein, je suis dans notre province. C'est pas facile. Il n'y a pas eu un homme qui a été capable de faire ce qu'elle est arrivée à réaliser. Mais au moins, elle a pu faire cela. Pourquoi? Parce qu'elle a eu d'abord le courage. C'est ce courage-là qui est face à qu'aujourd'hui qu'on parle des femmes leaders, aujourd'hui qu'on parle des femmes capables, aujourd'hui qu'on parle de plusieurs catégories de femmes dans notre province du Kasaï central. Mais pas seulement dans notre province. Il y a aussi plusieurs provinces qui ont des femmes qui occupent des postes et des prises de responsabilité. Alors pour arriver à avoir des femmes qui sont capables pour qu'elles prennent elles aussi des décisions, on doit comprendre que la femme est capable.
Alors, madame, quand vous dites qu'on doit comprendre que la femme est capable, est-ce que faudra-t-il que la femme prouve sa capacité dans les revendications? Est-ce que c'est l'homme qui freine la femme ou la femme elle-même a une responsabilité à jouer dans son avancement?
La femme a une responsabilité à jouer dans son avancement, monsieur, parce que imaginez qu'une personne est à la maison, elle laisse tout ce qu'il faut, il y a plusieurs qui partent au champ. Quand tu vas voir une maman aller au champ là-bas pour travailler et amener à manger le soir à la maison, c'est dans ses propres responsabilités. Quand vous voyez une femme laisser les enfants à la maison pour aller faire et pour aller enseigner à l'école, par exemple, ça s'appelle responsabilité. Quand vous voyez la femme, par exemple, aller travailler au barreau, être médecin, être journaliste, c'est pas facile. Donc, c'est la femme qui est capable de fournir tous ses efforts, c'est la femme qui est capable de faire tout cela. C'est ses efforts propres, c'est ses efforts. C'est pas dire que quand vous allez voir la femme revendiquer ses droits, elle n'a pas droit à revendiquer et d'être à la maison et d'affaires je ne sais quoi. Mais les hommes, veuillez comprendre, chers hommes, que nous sommes capables. Chers hommes, veuillez comprendre que sans nous, vous ne pouvez pas aussi travailler. Chers hommes, veuillez comprendre que sans nous, le monde ne pourra pas avoir le vrai sens de la vie. Parce que tout ce que nous sommes en train de fournir aujourd'hui comme effort, ça vient de nous, ça vient de notre tête. Alors, évitez de nous sous-estimer, évitez de comprendre que nous ne sommes pas capables. Et si nous, aujourd'hui nous revendiquons les droits, c'est pas du hasard, c'est parce que nous avons compris que nous sommes capables de travailler, nous sommes capables de faire ce que vous, les hommes, vous êtes en train de faire. Et c'est pour cela que nous faisons cela.
Merci. Merci beaucoup, Madame Nicolette Ngalola. Vous êtes à Kananga. Vous estimez qu'il y a un problème de capacité. Les femmes sont capables de pouvoir le faire, mais l'homme doit aussi changer son regard envers la femme. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, vous avez évoqué déjà le fait que la femme a autant de responsabilités, que ce soit au niveau du ménage, que ce soit au niveau de la scolarisation des enfants. Même le travail qu'elle fait déjà, ça montre qu'elle est responsable. Et aujourd'hui, les hommes ne peuvent pas réussir sans qu'il y ait cette implication de la femme. Alors, Madame Ginette, vous nous appelez de Kolwezi dans le Lalaba. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci, bonjour coach, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Merci de nous avoir rejoints. Et pour vous, qu'est-ce que la femme doit faire au-delà de tout ce qu'on peut dire qu'elle se batte pour arriver à accéder au poste de responsabilité?
Je veux dire que malgré le combat, la femme normalement, la seule chose qu'elle doit faire c'est se battre dans le sens qu'elle doit prouver qu'elle mérite. La femme doit d'abord prendre conscience, parce que la plupart des filles aujourd'hui, pensent qu'elles sont faibles parce que c'est ce que les parents ont inculqué dans la femme. Elles doivent prendre conscience qu'elles sont aussi capables de faire comme l'homme le fait. Elle est capable d'étudier, de travailler la mathématique, la physique et toutes ces sciences que les filles pensent que ces sciences sont réservées aux hommes. Et de deux, il faut aussi que l'homme, surtout l'homme congolais, prenne conscience que la femme a aussi les capacités. La femme a les capacités, les mêmes capacités que l'homme, pour pouvoir assumer les mêmes postes que l'homme. N'est pas seulement vouloir avoir des récompenses qu'aujourd'hui, de nos jours, je suis sûre, quelle que soit l'intelligence de la femme, lorsqu'on se présente avec certains hommes, il y a encore dans les entreprises les gens qui préfèrent prendre les hommes que de prendre les femmes à ce poste-là. Alors, nous allons tout ce que nous voulons laisser à l'obstacle qui reste encore pour que la femme accède à ce poste, parce que c'est l'homme d'abord. L'homme ne reconnaît pas encore les capacités de la femme. L'homme ne reconnaît pas encore les capacités de la femme dans des postes en dehors, dans le foyer, par exemple. Or, la femme, c'est le seul être qui est capable de combiner son travail et même éduquer bien ses enfants. Mais l'homme ne peut pas reconnaître cela. Nous allons, je demande à l'homme congolais de reconnaître les capacités de la femme, de savoir que la femme peut aussi travailler qu'un homme. Parce que c'est ça même l'argument qu'on avance. Quand la femme sera enceinte, le travail ne va pas avancer. C'est faux. Comment la maison marche quand la femme est enceinte? Comment elle éduque les enfants? Or, éduquer les enfants, c'est le plus dur du métier, des métiers que la femme peut faire, que la femme fait tous les jours. Donc, il faut que l'homme reconnaisse les capacités de la femme. La femme a déjà quand même pris conscience, la femme a déjà ces soucis-là. Mais à chaque fois qu'elle va pour prendre ses responsabilités, elle est repoussée par l'homme, par des préjugés. Du fait, parfois, elle peut même, la plupart des femmes finissent par se fatiguer et arrêter.
Alors, Madame Ginette, vous avez évoqué tout à l'heure la question des préjugés. Pour terminer, parce qu'on tend déjà vers la fin de cette émission. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour combattre ces préjugés que les hommes ont dans leur regard envers la femme? Qu'est-ce qui doit être fait pour combattre ces préjugés?
Il faut tout simplement que nous puissions aussi, nous devons aussi nous battre pour bannir cela dans les têtes, parce que parfois c'est quand même difficile. Les hommes pensent, quand par exemple il y a une femme, même quand vous êtes à la faculté, quand une femme réussit par exemple, on commence par se poser, ce qui est bizarre même dans la famille, on commence par se demander comment elle a pu réussir à la première session, comment elle passe d'une année à l'autre à la faculté, à l'université, comment elle peut faire. On ne pose jamais ce genre de questions quand c'est un homme qui réussit chaque année. Par exemple, quand une femme a un travail, on doit savoir comment elle a pu avoir. Mais la femme, c'est aussi un être humain comme un homme. Elle a aussi ses capacités, elle a son intelligence, elle a un cerveau. Donc, c'est ce genre de préjugés que nos parents, nos frères, nos oncles, tous ces gens là-bas doivent savoir que la femme est intelligente. Merci. Elle a un cerveau comme celui d'un homme. Elle peut travailler, elle peut faire tout ce qu'un homme peut faire.
Merci beaucoup,
donc,
Madame Ginette Kabeya.
Rien n'empêche à la femme de faire ce qu'un homme fait.
Merci beaucoup, Madame Ginette Kabeya, de nous avoir appelé de Kolwezi. Vous êtes à 30 kilomètres de Kolwezi dans le Lualaba. Merci d'avoir été avec nous. Alors, nous revenons à vous, Madame Nathalie et Kambala Lousse, parce qu'on doit clôturer cette émission. Nous en faut que 2 minutes et demie, pour vous écouter. Vous avez suivi les uns et les autres. Ginette évoque tout à l'heure la question très importante des préjugés. Pourquoi elle a reçu en première session plutôt, comment est-elle passée? Comment elle a attrapé cet emploi? Alors qu'on ne pose jamais ces questions quand c'est un homme qui a reçu en première session ou quand il a été embauché quelque part. C'est-à-dire qu'il y a un grand travail à faire sur le regard de l'homme qui doit changer envers la femme dans la société. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir pour conclure cet échange, madame?
Merci beaucoup. Je dis merci encore à mes sœurs et frères qui nous ont écoutés, qui ont aussi ajouté quand même. Je pense que par rapport à ce que notre sœur vient de dire, ce qu'il faudra faire, c'est remporter des sensibilisations contre des stéréotypes négatifs. Parce que là, il faudra que les gens comprennent que ça, ce sont des valeurs, ce sont nos mœurs, et ça, ce sont des pratiques néfastes qu'il faut abandonner. Parce que les stéréotypes, ce sont des mauvaises pratiques qu'on incrimine à la femme. On veut se poser mille et une questions pour voir la réussite d'une femme. Donc moi, je pense qu'aux structures féminines, aux structures de droits de l'homme, dans tous les domaines, on doit faire beaucoup de sensibilisation pour combattre ces stéréotypes négatifs par rapport à l'image de la femme. Au-delà de cela, moi, je pensais aussi qu'on devait vraiment vendre la bonne image des acteurs politiques. Parce que même dans la politique, il y a de bons hommes qui font la fierté de notre pays. Merci. Et il y a aussi des gens qui vendent en mal l'image de notre pays. Merci. Donc, je pense beaucoup. Que vous devez faire la promotion des acteurs, des actions, des bonnes actions en politique. Peut-être aujourd'hui, on ne devait pas parler. Et aussi, il faudra sensibiliser les familles, les parents, pour aider les filles et les femmes à jouir Merci. De leurs droits. Parce que si aujourd'hui, déjà les familles ne comprennent pas que les femmes et les hommes, ou les filles et les garçons, ont le même droit, ça sera une grande difficulté.
Merci
Donc,
beaucoup.
On devra aussi sensibiliser. Et sur le plan, par exemple, politique, s'il vous plaît, je termine déjà.
En un mot,
on ne peut pas définir calme, clairement, le mécanisme transparent et d'affectation de la promotion de la femme dans le cadre Merci. De la parité.
Merci beaucoup, Madame Nathalie Kambala-Loussé, de nous avoir accordé de votre temps à partir de Kananga. Vous êtes responsable de l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous les auditeurs. Cette émission a été mise en nom de par Patrick Kassonga. À la réalisation, nous avions Priscilla Badjoko. Nous avons aussi Dandy Bompela et Anania Jiré. Et vous pouvez réécouter cette émission sur www.radiocapi.net. Merci de votre fidélité. À la fréquence de la paix. Au revoir.